Chapitre 24. Buddy Lee quitta Gray Street et se gara sur un parking payant éclairé par des réverbères autour desquels flottaient des nuages de moucherons et de papillons de nuit. Quand le moteur se coupa, Ike, la tête appuyée à la vitre, se redressa et se frotta les yeux. « Tu dormais ?» lui demanda Buddy Lee. « Je me suis pas beaucoup reposé la nuit dernière. T'as eu le temps de faire une sieste, toi ?»« Disons que j'ai somnolé. » Une voiture passa dans la rue, musique à fond, avec des basses dignes d'une rêve partie qui couvrirent quelques instants les bavardages étouffés des promeneurs arpentant les trottoirs. Ike avait l'impression qu'ils étaient sous l'eau, en train d'écouter des gens sur la rive. Il sortit la serviette à cocktail de sa poche et l'examina. « Bon, allons-y. »« Et on fait quoi ?» l'arrêta Buddy Lee. « On entre et on demande aux clients s'ils ont entendu parler d'une certaine tangerine ?»« Ouais, mais laisse ton couteau dans la boîte à gants. Si La Plata et Robin s'en ont après nous, on a intérêt à pas trop faire de vagues. » Je compte plus le nombre de fois où ce couteau m'a sauvé la vie. Alors hors de question que je le prenne pas. Et puis, de nous deux, je te rappelle que c'est quand même toi qui t'amuses à péter les doigts des gens qu'on interroge. Ike lui lança un regard noir. Prêt ? Grogna-t-il. Prêt ? La dernière fois que t'es entré dans une boîte, toi, ça remonte à loin ? Michael Jackson était encore vivant, répondit Ike en descendant du pick-up. Le Garlands se trouvait à l'intersection de Gray Street et de Fushy Street. Le néon en forme de paire d'escarpins qui surmontait la grande baie vitrée baignait le trottoir d'une lueur rouge et vert. Buddy Lee s'arrêta devant l'entrée, cracha dans ses mains et se les passa dans les cheveux. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui demanda Ike. « On sait jamais. Peut-être que je vais faire la connaissance d'une jolie demoiselle aux mœurs légères. » Cette fois, Ike ne put s'empêcher de rire. Buddy Lee esquissa un sourire qui disparut après quelques secondes. « Au boulot !» dit-il en poussant la porte. Le club était divisé en son centre par un long bar de forme ovale auquel étaient installés quelques clients. Du côté gauche, on trouvait des tables et des alcôves avec banquettes. Du côté droit, des petits canapés rouges et bleus et des poufs. Accrochés au mur en briques apparentes, des portraits en noir et blanc de Judy Garland, tirés du Magicien d'Oz, se mêlaient à des photos en couleur de l'actrice incarnant Esther Smith dans Le Chant du Missouri. L'écran plat au-dessus du comptoir diffusait un clip de Judy Garland chantant Over the Rainbow sur un rythme techno. Quand Ike et Buddy Lee entrèrent, deux noirs installés à l'une des extrémités de l'ovale levèrent la tête et les jaugèrent rapidement avant de retourner à leur consommation. Sur leur droite, trois femmes, deux noires et une blanche, étaient entassées sur un des canapés de place. Ike et Buddy Lee se dirigèrent vers le comptoir et tirèrent chacun un tabouret. D'un regard par-dessus l'épaule, Ike examina les lieux. Dans une alcôve, un petit groupe de blancs d'un certain âge, plutôt élégant, était assis autour d'une table au centre de laquelle trônait une rangée de shooters. Ils trinquèrent et l'un d'eux s'écria « Un homme inverti en vaut deux !» Et tous descendirent leurs verres au milieu des éclats de rire. Ike tourna la tête et vit qu'à la table derrière lui, deux hommes se tenaient la main. Quant aux trois femmes sur le canapé de place, elles étaient à présent blotties les unes contre les autres et se caressaient les cheveux. Ike agrippa le rebord du comptoir. « Je crois que c'est un barguet, » murmura-t-il. « Hein ?» demanda Buddy Lee, qui scrutait les bouteilles sur l'étagère comme un pénitent qui vient d'apercevoir les portes du paradis. « Je crois que c'est un barguet, » répéta Ike à l'oreille de son voisin. Buddy Lee fit une rotation complète sur son tabouret, puis se pencha vers Ike. « En même temps, on aurait pu s'en douter. Personnellement, c'est la première fois que je fous les pieds dans un barguet. Mais ils ont l'air d'avoir du bourbon, donc je devrais m'en sortir. »« Je vais demander au barman s'il connaissait les garçons, et s'il a entendu parler de tangerine, » annonça Ike. « T'es sûr que ça va ? On dirait que tu viens de courir un 100 mètres en côte. »« Ça va, ça va. » Buddy Lee leva deux doigts et fit signe au barman qui s'approcha d'eux après avoir servi deux martinis aux clients installés à l'autre extrémité du comptoir. « Bonsoir, messieurs. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Il s'agissait d'un petit Asiatique, avec de longs cheveux noirs, qui tombaient sur ses épaules bien dessinées. Ike se fit la réflexion que son t-shirt était trop petit d'au moins deux tailles.
« Une course et un shooter de Jack Daniels, » répondit Buddy Lee.
« Et pour moi, juste un verre d'eau, » dit Ike. « Pas de souci. Est-ce que vous voulez manger quelque chose ?»«
Non, »
répliqua Ike pour devancer Buddy Lee. Quelques minutes plus tard, le barman qui leur avait appris entre-temps qu'il s'appelait Tex leur apporta leur commande. « Autre chose, messieurs ?» s'enquit-il avec un sourire, et Buddy Lee adressa un signe de tête à Ike avant de vider son bourbon.
« Ouais. J'aurais une question, » annonça Ike. « Est-ce que vous connaissiez Isaiah et Derek ? Je crois qu'il leur arrivait de fréquenter cet établissement. »
« Je les connaissais, » acquiesça Tex, l'air grave. Ils venaient souvent aux soirées ultraviolets. Une fois par mois, Derek nous préparait des pierogies pour les ateliers peinture. Et Isaiah a même écrit un article sur nous sur son site web. Bref, des gens bien. J'arrive pas à croire qu'ils aient été assassinés. C'est horrible.
Ouais, c'est horrible.
Approuva Ike, une boule dans la gorge.
C'était des amis à vous ?
Demanda Tex.
Non, c'était nos fils,
répondit Buddy Lee avant de porter la bouteille de bière à ses lèvres.
Oh, je suis vraiment désolé, messieurs.
Merci, fit Ike. Tex sortit un torchon blanc de la poche de son tablier et essuya le comptoir devant eux. Dans le canapé de place, une des trois femmes poussa un petit cri de surprise ou de plaisir. Ou des deux.
Pardon, mais il faut que je vous pose la question. Qu'est-ce que vous venez faire là ? Parce qu'Isaiah disait souvent que...
Tex s'interrompit, gêné.
Qu'est-ce qu'il disait ?
Insista Ike, même s'il connaissait déjà la réponse.
Non, rien, je me demandais seulement pourquoi vous étiez là.
On essaie de comprendre ce qui s'est passé,
intervint Buddy Lee, qui venait de terminer sa bière.
Vous menez l'enquête ?
On discute avec les gens, c'est tout,
répliqua Ike. Apparemment, la police piétine, et nous, on voudrait juste savoir ce qui est arrivé à nos gamins. On n'est pas là pour causer des problèmes.
Ce n'était pas tout à fait exact. Il comptait bien causer des problèmes à ceux qui avaient assassiné son fils, et pas qu'un peu.
La police est passée il y a quelques semaines. C'est pas que les gens ont pas envie d'aider, c'est surtout qu'ils sont méfiants. On a beaucoup de clients ici qui sont pas out et qui ne tiennent pas à ce que leur nom soit associé à une enquête concernant le meurtre d'un couple homosexuel. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Richmond est plutôt une ville où il fait bon vivre quand on est gay ou queer. Mais ça reste la Virginie. Les fans des statues confédérées de Monument Avenue n'auraient aucun problème à accrocher certains de nos clients au bout d'une branche, si vous voyez ce que je veux dire.
J'ai surtout l'impression que les amis d'Isaiah et Derek sont des gros lâches,
rétorqua Buddy Lee. Et Tex secoua la tête.
Vous ne pouvez pas comprendre. Il y a du mieux pour les gays, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Il suffit que votre patron l'apprenne pour que vous perdiez votre boulot du jour au lendemain, au prétexte que vous ne vous êtes pas garé sur la bonne place de parking ou une absurdité comme ça. C'est comme ça pour les Noirs, les Asiatiques ou les Hispaniques. Ça s'arrange, mais...
Ike poussa un grognement.
J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas ?
Demanda Tex.
Être gay et être noir, ça n'a rien à voir, déclara Ike d'un ton glacial. Et Tex fronça les sourcils.
Tout ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est dans le sud. Si on n'est pas blanc et hétéro, il vaut mieux surveiller ses arrières.
Désolé, mais c'est vrai, ajouta-t-il en se tournant vers Buddy Lee.
Pas de souci, je me rendais pas compte que j'avais autant de chance.
Il avait dit cela sur le ton de la plaisanterie, mais une gêne s'abattit sur eux trois. Tex jeta un regard vers Ike, qui ne semblait toujours pas convaincu.
« Est-ce que vous savez quelque chose sur ce qui est arrivé à nos fils ?»
reprit Ike.
« Est-ce qu'ils vous ont parlé de menaces qu'ils auraient reçues, par exemple ?»«
Non, je suis désolé. »
« Et sinon, vous connaîtriez pas une fille qui s'appelle Tangerine ?»
intervint Buddy Lee. Tex, qui avait attrapé la bouteille de bière vide pour la débarrasser, s'interrompit en plein mouvement.
Elle passait pas mal de temps ici à une époque, mais ça fait une éternité que je l'ai pas vue. Elle va, elle vient.
Et elle fréquentait les garçons ?
Demanda Ike, ce qui lui valut un regard noir de la part du barman.
Comment ça ?
Nos garçons, Isaiah et Derek.
Ah, non. Comme je disais, elle va, elle vient. C'est une fille qui aime bien faire la fête.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Insista Buddy Lee, et ce fut son tour de se faire fusiller du regard par Tex.
C'est à elle qu'il faut poser la question.
J'y compte bien. Vous savez où je peux la trouver ?
Aucune idée.
Est-ce qu'il y a d'autres gens ici qui la connaissent ?
S'enquit Ike.
Aucune idée non plus, répondit Tex, le visage fermé.
Vous n'avez qu'à leur demander.
Ike se pencha vers le comptoir et inclina la tête.
« Il y a un problème ?»
fit-il sèchement, et Tex se passa la langue sur les lèvres avant de répondre.
« J'ai un ami qui vient ici parfois, un avocat. Il doit avoir votre âge, il est homo, noir, et c'est une des personnes les plus sympas que je connaisse. Vous savez ce qu'il m'a confié une fois ? Que les noirs avaient plus de haine contre les homos que contre les racistes. » Il m'a raconté qu'il avait grandi dans un trou paumé et qu'en tant que noir et homo, il avait l'impression d'être coincé entre un lion et un alligator. Les beaufs blancs d'un côté, les noirs homophobes de l'autre. D'après lui, le seul moyen de s'en sortir dans sa situation, c'était de devenir soit coiffeur, soit chef de chœur. Et comme il ne savait ni couper les cheveux ni chanter, il est parti. Quand il m'a expliqué tout ça, je l'ai pas cru. Ça pouvait pas être à ce point-là. Et pourtant, chaque fois que je croise un type comme vous, ça me rappelle que j'avais tort.
Alors vous pensez que c'est plus simple d'être noir que d'être gay ? Il me semble que quand tu débarques quelque part, personne peut deviner que t'es homo si tu vas pas le crier sur tous les toits. Moi, je suis noir partout. Je peux pas le cacher.
C'est vrai, approuva Tex en triturant son torchon. Mais le fait que vous estimiez que moi, je devrais cacher qui je suis, prouve que j'ai raison. Pour reprendre les mots de Martin Luther King, où qu'elle règne, l'injustice compromet partout ailleurs la justice.
Ike serra les dents et se rassit.
Faites-moi signe si vous avez besoin d'autre chose, conclut Tex avant de tourner les talons.
La vache, le coup de la citation! Je crois qu'il a gagné le premier round, petit scarabée!
S'esclaffa Buddy Lee. Voyant qu'Ike ne réagissait pas, il ajouta.
« Ça va, je te taquine. Je pense pas qu'ils sachent quoi que ce soit de toute façon. Mais je suis sûr qu'il y a des gens ici qui ont des infos. »«
fit Ike, avant de vider son verre d'eau d'un trait et de le poser brutalement sur le comptoir. Il avait l'impression d'avoir la cage thoracique prise dans un étau. Les deux blancs qui se tenaient la main derrière eux étaient maintenant en train de danser un slow langoureux. L'un des noirs au comptoir caressait la joue de son compagnon, et les verres à martini s'étaient vidés comme par magie. Quant aux trois jeunes femmes sur le canapé, elles continuaient à se triturer les cheveux.
« On devrait se séparer, » suggéra Buddy Lee. « Ce sera peut-être moins intimidant pour les clients. »«
Bonne idée. Ça va me rappeler la promenade, quand tout le monde se branchait sur Radio Coursive. »«
Ha ha ! Ça faisait un bail que j'avais pas entendu cette expression !» Nous, à Red Onion, on disait simplement « Radio Prison ».
Il faut que j'arrête de parler comme un détenu. C'est fou la facilité avec laquelle on reprend les vieilles habitudes.
Moi, j'en fais encore des cauchemars. T'as beau être dehors, tu continues à te sentir comme un tolard.
À ce qu'on raconte, Red Onion est un véritable bagne.
Et je peux t'assurer qu'elle est à la hauteur de sa réputation,
confirma Buddy Lee en lorgnant la bouteille de Jack Daniels sur l'étagère.
Là-bas, même les rats sont malheureux.
Il croisa le regard de Tex et lui fit signe de lui resservir un verre. Le barman s'exécuta sans un mot et Buddy Lee vida son shooter.
Qu'est-ce qu'on avait dit sur la picole ?
Le sermonna Ike.
Ça va, je gère,
maugréa Buddy Lee, tandis que le bourbon lui réchauffait l'estomac.
Je vais discuter avec les nanas sur le sofa. Tu t'occupes des clients de ce côté-là ?
Ça marche.
Buddy Lee descendit de son tabouret. Ike prit une profonde inspiration, il pivota sur son siège et embrassa la salle du regard. Il avait le choix entre le couple de noirs au comptoir, le couple de blancs qui dansait, et le groupe de types plus âgés dans leur alcôve. Par facilité démographique, il opta pour les noirs.
« Bonsoir, messieurs. »
Le plus costaud des deux était du même gabarit qu'Ike et avait une barbe luxuriante qui lui couvrait tout le bas du visage. Il détourna les yeux de son compagnon juste assez longtemps pour qu'Ike puisse y lire de l'agacement.
« Oui ?»« Je cherche une fille et... »«
Je crois que vous n'avez pas choisi le bon endroit. » L'interrompit le partenaire du barbu, qui était, lui, rasé de frais.
« Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. »
« En quoi peut-on vous aider ?» demanda sèchement le barbu, et Ike dut se contenir pour répondre d'un ton calme.
« Je suis à la recherche d'une fille qui s'appelle Tangerine. Apparemment, elle fréquentait souvent ce bar à une époque. C'est une amie de mon fils, et il faut que je lui parle. »«
De quoi ?» Sans qu'il le rasait.
« Pardon ?»«
Il faut que vous lui parliez de quoi ? Vous êtes son ex, c'est ça ?»«
Hein ?» « Non, c'est au sujet de mon fils. »«
Elle l'a plaqué ?» demanda le barbu.
« Écoutez, mon fils est mort et cette nana peut peut-être m'aider à retrouver la personne qui l'a assassiné. Alors, ça vous va si on arrête de tourner autour du pot ? Vous la connaissez, oui ou non ?»«
Non, » conclut le barbu, avant de lui présenter son dos. Ike inspira si violemment que l'air lui brûla les narines. Il avait l'impression d'être cloué au sol, et sa peau crépitait comme s'il avait posé la main sur un câble électrique. Seconde après seconde, l'espace qui le séparait de ces deux hommes semblait se charger d'une énergie destructrice. Ils avaient osé lui tourner le dos. En prison, un tel manque de respect vous valait à coup sûr un séjour prolongé à l'infirmerie. Voire pire. Ike ne s'était même pas rendu compte que son poing était fermé, prêt à frapper. Il regarda sa main et rassembla tout son sang-froid pour desserrer les doigts. Ce n'était pas le moment de faire une connerie et de se retrouver au trou. Pas tant que la mission n'était pas terminée.
« Merci !»
s'étrangla-t-il, avant de s'éloigner. Le couple qui dansait était parti. Restait le petit groupe dans l'alcôve, qui s'esclaffait devant une autre rangée de shooters. Ike s'approcha.
« Bonsoir, les gars !»
« Ça va ?» demanda-t-il, en s'efforçant de paraître sympathique. Les rires se dissipèrent, mais les sourires étaient toujours là.
« Bonsoir !» le salua un des types. « Je m'appelle Ike Randolph. Je suis le père d'Isaiah Randolph, » expliqua Ike, et les sourires disparurent.
« Je suis tellement désolé, Ike. Moi, c'est Jeff, » commença l'homme qui se trouvait le plus proche de lui en lui tendant la main. Ike la serra et fut surpris par la poigne de son interlocuteur. Les autres se présentèrent à leur tour.
« Ralph !»«
Sal !»«
Chris !»
Ike leur adressa un hochement de tête.
« Ils n'ont pas l'air homo, »
songea-t-il. Et aussitôt, il entendit la voix d'Isaiah.
« Ça veut dire quoi, avoir l'air homo ? Tu t'attendais à ce que ce soit gravé sur leur front ?»«
J'en déduis que vous connaissiez Isaiah. »
« Oui, » confirma Jeff. Derek et lui étaient des habitués. Isaiah a écrit un article sur mon assaut et Derek a bossé dans le restaurant de Chris.
« Le monde est petit, hein ?»«
Le monde est surtout composé de tout un tas d'autres petits mondes. »«
Elle fait quoi, votre association ?»«
On propose des formations manuelles dans les quartiers défavorisés pour les jeunes homosexuels victimes de discrimination. On leur enseigne les arts industriels. » « Personnellement, je suis soudeur et, à mon très faible niveau, artiste amateur. »«
Arrête de jouer les modestes !»
intervint Ralph en prenant la main de Jeff. Ike examina une photo de Judy Garland posant dans un cabaret anonyme, son regard pénétrant et sa moue aguicheuse figée en noir et blanc pour l'éternité.
« C'est vachement bien !»
commenta-t-il.
« Et vous avez beaucoup de gamins qui viennent ?»
Les quatre hommes restèrent silencieux un long moment avant que Jeff reprenne la parole. Il y a pas mal de gosses qui finissent à la rue quand ils font leur coming out. Pas tous, mais beaucoup. On les récupère avec un œil au beurre noir et des dents en moins. Certains parents pensent que l'homosexualité se soigne à coups de poing. Et il y a ceux qui débarquent en pleurs parce que maman, papa ou le pasteur leur a promis qu'ils allaient brûler en enfer. Ike regarda ses pieds.
Il faisait partie de ses parents. En tout cas, il avait tout fait pour endurcir Isaiah, dans l'espoir que cela changerait quelque chose. Il aurait eu plus vite fait de le balancer d'un toit en priant pour qu'il se transforme en oiseau, parce qu'Isaiah n'aurait jamais pu changer. Il était resté comme il était jusqu'à sa mort.
Et maintenant, il est 6 pieds sous terre,
marmonna Ike.
Pardon ? Demanda Jeff.
Non, rien, je disais juste que c'est dégueulasse.
Là-dessus, on est bien d'accord.
Avec le père de Derek, on cherche des gens qui auraient la moindre idée de ce qui a pu se passer,
expliqua Ike.
Notre but n'est surtout pas de les mettre dans l'embarras, on veut simplement comprendre ce qui est arrivé à nos gamins.
Ces hommes percevaient-ils le désespoir dans sa voix ? Lui, en tout cas, l'entendait, et il n'aimait pas ça. Retrouver ceux qui avaient assassiné Isaiah et Derek était le radeau auquel il se cramponnait pour ne pas sombrer. Sauf que le radeau pouvait couler à tout moment, et il valait mieux qu'il n'y ait personne dans les parages quand cela se produirait.
« Je suis vraiment navré, mais je pense pas qu'on puisse vous aider. »
s'excusa Jeff.
« Ils étaient tellement heureux, tous les deux. »
ajouta Sal.
« Je paierais cher pour avoir ce qu'ils avaient. »
acquiesça Chris.
« Si tu veux te trouver un mari, commence déjà par arrêter de coucher à droite et à gauche. »
s'esclaffa Ralph. Et Chris lui tira la langue.
« Ah oui, et sinon, est-ce que vous auriez entendu parler d'une certaine tangerine ?»
demanda Ike. La joue droite de Jeff frémit de manière quasiment imperceptible. « Un tic », songea-t-il, en repensant à la conversation sur le poker avec Buddy Lee et le vendeur du magasin de gâteaux.
« J'ai connu une fille qui s'appelait comme ça, oui », répondit Jeff.
Et Ike sentit que l'artiste soudeur choisissait ses mots très soigneusement, tout en cherchant un soutien du regard.
« Ah, elle suivait une formation dans votre assaut ?»« Disons qu'elle passait souvent la nuit là-bas »,
intervint Ralph. Jeff, dont la joue droite était désormais quasiment agitée de spasmes, retira sa main de sous celle de Ralph, avant de la reposer sur son avant-bras pour ce qui ressemblait à un avertissement.
Tangerine n'était pas trop intéressée par l'art industriel, dit Jeff. C'est un esprit libre.
C'est une façon de voir les choses,
s'esclaffa Chris. Sal lui donna un coup de coude.
Bah quoi ? Je fais que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas,
se justifia Chris.
Le fait que c'est une fille qui aime faire la fête ?
Suggéra Ike.
Tangerine a un petit côté diva,
oui, finit par reconnaître Jeff.
Si j'ai bien compris, elle avait rencontré Derek à une soirée pour un type qui bosse dans la musique. Cette nana, de toute façon, c'est un papillon. Dès qu'elle voit de la lumière, elle fonce,
dit Chris. Jeff le fusilla du regard, mais soit Chris ne remarqua rien, soit il s'en fichait.
Vous voulez parler de la grosse fête organisée par Mr. Get Down ?
Demanda Ralph.
Je sais pas. C'est qui, Mr. Get Down ?
Un producteur de hip-hop et de trance. Son vrai nom, c'est Tariq Matthews. Il habite dans une banlieue chic. Une immense baraque avec des arches gothiques immondes qui a l'air de sortir tout droit d'un film de James Whale.
Ralph marqua une pause, espérant sûrement un rire.
Attendez, je suis le seul à savoir qui est James Whale ici ? Frankenstein, l'homme invisible, ça vous parle pas ? Ça y est, je dois être un vieux schnock. Tant pis. Pour en revenir à Tariq, c'est un peu une célébrité dans le coin. Je l'ai eu comme élève au collège. Juste après avoir terminé le lycée, il a produit un album qui s'est classé numéro 1 dans 15 pays. Une semaine avant la fête en question, Derek nous a appris que c'était sa boîte de traiteur qui allait s'occuper des 30 ans de Mr. Get Down.
30 ans. C'est vrai que je suis vieux, en fait.
Soupira Ralph en posant la tête sur l'épaule de Jeff.
Et vous pensez que c'était son truc à Tangerine, ce type de soirée ?
Demanda Ike. Chris s'apprêtait à répondre, mais Jeff l'interrompit.
Pour résumer, je dirais que Tan est une fille compliquée, en pleine quête d'identité. Elle est jeune et belle, et c'est le genre de chose qui peut vous attirer pas mal de détracteurs.
Elle s'appelle même pas Tangerine en plus,
ajouta Chris.
T'es lourd parfois, Chris.
Intervint Ralph, et Chris croisa les bras, vexé.
« Vous avez la moindre idée d'où je pourrais la trouver ? »
demanda Ike. Pourquoi ? Vous pensez qu'elle est liée à ce qui est arrivé à Isaiah et Derek ? S'étonna Jeff.
Isaiah était censé la retrouver ici pour une interview. La veille du soir où Derek et lui ont été abattus, elle a annulé le rendez-vous,
expliqua Ike, le cœur serré. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'a pas vu Tan depuis encore plus longtemps que ça. J'ai aucune idée d'où elle est.
Alors que Jeff prononçait ces mots, sa joue droite se remit à tressaillir. Ike lui lança un regard noir, le regard qui fait peur, le regard du tueur. Jeff avait l'air gentil. Il consacrait sa vie à aider des ados rejetés. Il avait un groupe d'amis soudés. Mais ça ne l'empêchait pas de mentir comme un arracheur de dents, car il savait exactement où se trouvait Tangerine. Ike le sentait au plus profond de ses tripes. Tangerine était la fille qu'il avait entendue sur le répondeur d'Isaiah et qui semblait terrifiée. Est-ce qu'elle avait peur parce qu'elle était au courant qu'Isaiah avait un tueur aux trousses ? Est-ce qu'elle l'avait piégé ? Ike l'ignorait. Ce dont il était convaincu, en revanche, c'était que le gentil Jeff, avec ses cheveux gris bien coiffés et sa barbe de 3 jours bien dessinée, le prenait pour un bouseux trop stupide pour se rendre compte qu'on lui mentait. Le gentil Jeff, qui se souciait plus de protéger une fêtarde que d'aider Ike à retrouver les assassins de son fils, était visiblement atteint du syndrome du rat des villes, comme beaucoup d'habitants de Richmond, qui se plaisaient à croire qu'ils étaient plus malins et plus sophistiqués que les gens qui vivaient dans les autres comtés, quand bien même la plupart de ces comtés se trouvaient à quelques dizaines de kilomètres à peine du grand panneau lumineux qui marquait l'entrée de la ville. Ike se demanda en combien de temps le gentil Jeff cracherait la vérité s'il lui enfonçait les pouces dans les yeux jusqu'à les faire éclater. Jeff ferma les paupières. Peut-être avait-il senti que ses globes oculaires étaient en danger.
Je vous jure que j'ignore où elle est, mais...
Mais quoi ? Insista Ike en continuant à le fixer d'un regard assassin.
Si elle était à cette fête, ce n'était probablement pas la première fois qu'elle traînait avec Mr. Get Down,
lâcha Jeff de mauvaise grâce, au moment où la sono se mettait à diffuser une version trip-hop de The Man That Got Away.
Lui saura peut-être où la trouver.
Merci. Ike retourna au bar. Est-ce que je pourrais avoir un deuxième verre d'eau ? Demanda-t-il à Tex. Et je vais vous régler les consommations de mon ami. Tex s'approcha et, sans un mot, posa l'addition sur le comptoir. Ike avait-il vraiment appelé Buddy Lee son ami ? Il n'était pas sûr que le terme soit bien trouvé. Ils avaient tué un homme ensemble, ce qui faisait d'eux un peu plus que de simples connaissances, mais de là à parler d'amitié. Ike venait de sortir sa carte bancaire de son portefeuille quand un grand noir tout fin s'avança vers lui en titubant. L'homme parvint péniblement à s'asseoir sur un tabouret et se mit à caresser son bouc grisonnant.
« Salut, toi !»«
Salut !» répondit Ike sans tourner la tête.
« Tu passes une bonne soirée ?»
bafouilla Bouc Gris. Ça peut aller. Ike chercha Tex du regard pour que celui-ci l'encaisse, mais le barman était occupé à prendre la commande d'un groupe de jeunes androgynes aux cheveux de toutes les couleurs qui venaient de pénétrer dans l'établissement.
Tous ces minets, là, ils sont beaucoup trop jeunes. Beaucoup trop fous,
commenta Bouc Gris. Ces mots tombaient de sa bouche comme des billes sur une table en pente.
Je m'appelle Angelo. »
Pour toute réponse, Ike enfonça les mains dans ses poches et se mit à se balancer d'avant en arrière en tapant du pied.
« On s'amuse bien avec eux, mais à quoi ça sert au bout du compte ?»
reprit Angelo.
« Quelques heures de gémissement, et pourquoi ? Pour qu'elle reparte au petit matin après avoir pissé sur la lunette de vos toilettes ?»
L'homme tanga dangereusement sur la gauche et se rattrapa au rebord du comptoir. Ike en profita pour s'écarter d'un pas.
« T'as quelqu'un ?»
demanda Angelo. « Je voudrais juste régler mes consos, » marmonna Ike, les lèvres tellement serrées que sa phrase semblait ne faire qu'un seul long mot.
« Ouais, moi je pense que t'as quelqu'un. T'es beaucoup trop canon pour être célibataire. »
« Hé, Tex, je voudrais payer !»
cria Ike.
« Je t'en vas ? Attends, attends, je t'offre un dernier verre. Pars pas tout de suite,
dit Angelo d'un ton suppliant. Et il posa la main sur l'avant-bras d'Ike.
Retire ta main, gronda Ike.
Les deux noirs à l'autre bout du comptoir prirent leur cocktail et se dirigèrent vers un canapé. Le tonnerre dans la voix d'Ike annonçait l'orage et il ne tenait pas à se retrouver au milieu de la tempête. Angelo, lui, n'avait visiblement pas reçu l'alerte météo.
« Pourquoi tu réagis comme ça? Je veux juste apprendre à te connaître !»
bafouilla Angelo en remontant les doigts vers le biceps contracté d'Ike.
« Je t'ai dit de retirer ta main, putain !»
hurla Ike. Et il attrapa Angelo par le col de sa chemise, renversant son tabouret au passage. Lorsqu'il le plaqua contre le mur, un cadre avec une photo de Judy Garland en chapeau haute forme et queue de pie se décrocha et lui tomba sur la tête. Mais il y prêta à peine attention. Les pieds d'Angelo flottaient à quelques centimètres du sol, et le pauvre homme était en train de tourner de l'œil.
« Je suis désolé !»
n'arrêtait pas de répéter l'ivrogne. Ike l'attira vers lui pour l'écraser encore plus fort contre le mur. Ses mains comprimaient le cou d'Angelo à présent, et celui-ci essayait désespérément de se libérer.
« Je t'avais dit de pas me toucher !»
beugla Ike. Les jeunes androgynes aux cheveux de toutes les couleurs avaient sorti leur téléphone portable et filmaient la scène tout en lui criant de laisser l'autre tranquille. Au moment où il allait assommer Angelo, Ike sentit des mains puissantes, celles de Tex, lui agripper les épaules et des bras tout aussi puissants lui en serrer la taille. Déséquilibré, il lâcha Angelo et commença à se débattre. Le barman lui intima de se calmer, mais il aurait eu aussi vite fait d'essayer d'amadouer un essaim de frelons.
« Me touchez pas !»
rugit Ike, poussé vers la sortie comme un taureau enragé qu'on cherche à ramener dans son box. Lorsqu'une troisième paire de mains l'agrippa, il tourna la tête et reconnut le visage de Chris déformé par la colère. Est-ce qu'il connaissait Angelo et qu'il venait défendre son ami? Ou était-il simplement furieux contre Ike? À raison, d'ailleurs. Ce dernier avait poussé la porte de cet établissement où Chris et ses amis se sentaient en sécurité. Et il leur avait demandé de l'aide. Non seulement ils avaient accepté de répondre à ses questions, mais ils lui avaient en plus ouvert une petite fenêtre sur ce qu'était devenu la vie d'Isaiah, un homme admirable en dépit de l'éducation que son père lui avait donnée. Et comment les avait-il remerciés? En brutalisant un pauvre ivrogne inoffensif. Du coin de l'œil, il vit Buddy Lee accourir. Celui-ci poussa Chris pour se placer devant Ike.
« Il s'est passé quoi, putain ?»
s'écria-t-il. Et Ike arrêta enfin de se débattre.
« C'est bon, je m'en vais !»
tonna Ike.
« Je m'en vais !»« Buddy Lee, tu peux récupérer ma carte bancaire. »
Tex relâcha son étreinte. Un autre homme, un noir vêtu comme le barman d'un t-shirt blanc trop petit pour lui, retenait Chris qui voulait en découdre avec Buddy Lee. Tex encaissa rapidement les consommations et rendit sa carte à Ike.
« Maintenant foutez le camp avant que j'appelle la police »
aboya-t-il.
« Je croyais que vous préfériez pas parler à la police ?»
plaisanta Buddy Lee.
« Dégagez !»« Allez, viens, Ike, barrons-nous »
Il fit quelques pas en arrière avant de se diriger vers la sortie. Dans le bar, plusieurs clients les huaient. Ike croisa le regard de Jeff.
« Je suis désolé, » marmonna-t-il. Il savait que ces mots seraient inaudibles dans le vacarme ambiant, mais il tenait malgré tout à les prononcer.
Jeff secoua la tête et détourna les yeux. Après un trajet silencieux, Buddy Lee se gara devant chez Ike. Alors que celui-ci s'apprêtait à descendre, Buddy Lee lui demanda
« Qu'est-ce qui s'est passé au juste ?»
Ike ouvrit la portière et une brise tiède s'engouffra dans l'habitacle, faisant virevolter les quelques emballages de chewing-gum qui jonchaient le plancher.
« Je lui ai dit de pas me toucher, et il m'a touché. »«
D'accord, »
fit Buddy Lee d'un ton circonspect.
« Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?»«
Rien, c'est juste que je t'observais pendant que je parlais avec les filles, et j'ai eu l'impression qu'il t'avait à peine effleuré le bras. »«
Qu'est-ce que ça change ?» Quand tu dis à quelqu'un de pas te toucher, il est pas censé te toucher, point. S'il avait fait un truc pareil en prison, il aurait fini allongé sur le dos à regarder le plafonnier en se vidant de son sang.
Buddy Lee plia et déplia les doigts. Les épaules d'Ike s'affaissèrent légèrement. « Sauf qu'on n'est pas en prison », songea-t-il. C'était son cerveau qui avait formulé cette phrase. Mais c'était la voix d'Isaiah qui l'avait entendue. Buddy Lee se mit à pianoter sur le volant.
« T'as récupéré son numéro, mon... »«
Fous-moi la paix !» soupira Ike. Et Buddy Lee lâcha un petit ricanement.
« Ça va, ça va. Et sinon, t'as appris des trucs sur Tangerine avant de t'attaquer au papy de Samuel L. Jackson ?»
Ike se tourna vers Buddy Lee.
« Ouais. Apparemment, elle fréquente un producteur de musique, Mr. Get Down », annonça Ike.
Et Buddy Lee ne put s'empêcher de rire.
« J'imagine que c'est pas son nom de naissance. Quand est-ce qu'on va poser 2-3 questions à ce Mr. Get Down ?»«
Je sais pas, je t'appelle demain. Là, il faut que je dorme. »«
T'es sûr que tu veux pas qu'on parle de ce qui... »«
Je t'ai dit que j'avais sommeil. » L'interrompit Ike, avant de descendre du pick-up et de claquer la portière derrière lui.
« Eh oui, c'est qu'il a besoin de faire un gros dodo, ce gros bébé !»
marmonna Buddy Lee. Il remonta l'allée en marche arrière et fit demi-tour. Arrivé à l'embranchement avec la route 634, il ralentit, prit à droite et alluma l'autoradio. Les haut-parleurs se mirent à crachoter un vieux standard de country de Waylon Jennings. Quand Buddy Lee dépassa le magasin de pêche abandonné qui bordait la route, il était trop occupé à chantonner pour remarquer l'antique Chevrolet Caprice garé sur le parking encombré de mauvaises herbes. Quelques secondes plus tard, deux têtes apparurent derrière le pare-brise.
« Tu penses qu'il nous a vus ?»
demanda Cheddar.
« Non, il fait trop sombre. Je vais appeler Grayson »,
annonça Dom en sortant son téléphone portable de sa poche.
« Allô ?»
aboya Grayson.
Le blanc vient de déposer le noir. Qu'est-ce qu'on fait?
Restez où vous êtes, et demain matin, vous lâchez pas le négro d'une semelle.
Attends, tu veux qu'on attende ici comme des cons? Il est même pas 23 heures!
Faut te le dire en quelle langue. On doit retrouver cette fille, et cet enfoiré va nous mener jusqu'à elle.
Comme Dom ne réagissait pas, Grayson ajouta.
Quoi? Ça te pose un problème?
Non mais...
Et Andy dans tout ça?
On s'en occupera quand on aura localisé l'autre pute.
Ah oui, et sinon, Dom?
Ouais?
T'as pas intérêt à perdre la cible de vue, sinon il y aura des conséquences,
prévint Grayson. Et il raccrocha.